L'Iran et la Russie étudient la livraison de pétrole et de gaz naturel russe via l'Iran à d'autres pays dans le cadre d'un accord d'échange. En Syrie, l'aide aux sinistrés du tremblement de terre bloqué par le groupe terroriste Ayat Tahrir al-Sham. Des Français ont manifesté pour la sortie de leur pays de l'OTAN et contre les livraisons d'armes à l'Ukraine. Et l'Algérie assure le Niger de sa solidarité dans la lutte nigérienne contre le terrorisme. C'était les principaux titres, en voici le journal. L'Iran et la Russie sont toujours en pourparlers sur un accord potentiel qui permettra la livraison de pétrole et de gaz naturel russe via l'Iran à d'autres pays dans le cadre d'un accord d'échange. S'adressant aux journalistes à Moscou, samedi, le vice-premier ministre russe Alexandre Novak a qualifié un éventuel accord d'échange de pétrole et de gaz entre l'Iran et la Russie de projet prometteur. Les possibilités techniques sont en cours d'examen, c'est pourquoi ce projet est considéré comme prometteur, a déclaré Novak. Il avait précédemment indiqué qu'une première étape de l'accord pourrait permettre à la Russie d'offrir jusqu'à 10 milliards de mètres cubes de gaz naturel et 5 millions de tonnes de pétrole à l'Iran pour livraison de la même quantité à d'autres pays de la région dans le cadre d'un accord d'échange. Dans le cadre d'un accord similaire, l'Iran importe actuellement du gaz naturel du Turkménistan pour la consommation dans son nord-est, tout en livrant à partir de ses propres approvisionnements à l'Azerbaïdjan dans le nord-ouest. Les négociations sur un accord d'échange entre l'Iran et la Russie ont pris un nouvel élan au début de 2022, après que les exportations de gaz de la Russie vers l'Europe ont été soumises à des sanctions occidentales en raison de la guerre en Ukraine. Le bilan du tremblement de terre dévastateur en Turquie et en Syrie pourrait doubler au plus par rapport au bilan du dimanche, qui s'élève à 33 179 morts. A mise en garde dimanche 12 février, le coordinateur des secours d'urgence de l'ONU, Martin Griffiths. Selon les derniers bilans officiels, le tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 a fait au moins 33 172 morts, 29 605 en Turquie et 3 574 en Syrie. Je pense qu'il est difficile d'estimer précisément un bilan, car nous devons passer sous les décombres. On n'a pas encore réellement commencé à compter le nombre de morts, a déclaré Martin Griffiths, qui s'est rendu samedi 11 février à la ville de Kahramanmaraş, située dans le sud de la Turquie, l'épicentre du premier tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a bouleversé des millions de villes lundi 6 février. Selon lui, l'espoir de trouver des survivants sous les décombres s'amenuise à mesure que l'on s'éloigne de la fenêtre cruciale des 72 heures qui est la période d'or pour les opérations de sauvetage. Plus de 32 000 membres du personnel de gestion des catastrophes d'organisations turques ont été déployés dans les zones touchées et travaillent sur les efforts de recherche et de sauvetage, a déclaré l'agence turque des catastrophes. Près de 26 millions d'habitants ont été touchés par le séisme, a expliqué l'Organisation mondiale de la santé samedi en lançant un appel aux dons de 42,8 millions de dollars pour financer les besoins immédiats en matière de santé. Les Nations unies ont averti qu'au moins 870 000 personnes avaient besoin en urgence de repas chauds en Turquie et en Syrie. Jusqu'à 5,3 millions seraient actuellement sans toit, rien qu'en Syrie. En Syrie, les conditions sont encore pires, car le pays a été frappé par des années de guerre soutenues par l'Occident et s'ajoutant aux défis, les dures sanctions américaines créent des difficultés pour acheminer l'aide humanitaire en Syrie. Les Nations unies ont déclaré que le groupe terroriste Ayat Tahrir al-Sham empêche l'acheminement d'aide vers les zones sinistrées du nord de la Syrie. L'aide humanitaire destinée aux régions syriennes, contrôlées par les terroristes, a été bloquée en raison de problèmes d'approbation par le groupe terroriste Ayat Tahrir al-Sham, a déclaré dimanche un porte-parole des Nations unies. L'OHTC lance des attaques sanglantes contre le peuple et les forces gouvernementaux depuis 2011, alors que la Syrie est touchée par le terrorisme soutenu par l'étranger. Le secteur nord de la Syrie, qui est actuellement sous le contrôle du HTC, Ayat Tahrir al-Sham a reçu peu d'aide humanitaire car les terroristes ont fermé les lignes de front sur le gouvernement, malgré l'annonce la semaine dernière par Damas de sa volonté d'envoyer de l'aide dans cette région. Pendant ce temps, Reuters a cité une source auprès du HTC qui s'exprimait sous couvert d'anonymat, confirmant que ce groupe terroriste ne laisserait pas l'acheminement des aides humanitaires en provenance des secteurs de la Syrie repris par le gouvernement. Nous ne permettrons pas au régime de profiter de la situation pour montrer qu'ils aident. Toujours en Syrie, le groupe terroriste Daesh a tué dimanche 11 des 75 personnes qu'il avait enlevées la veille dans l'est du pays, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH. Une femme et un membre des forces gouvernementales syriennes font partie des victimes, selon l'OSDH. Les 75 travailleurs ont été kidnappés samedi par Daesh près de la ville de Palmyre alors qu'ils ramassaient des truffes, d'après l'OSDH. Le destin des 64 autres personnes enlevées demeure inconnu pour l'heure, a noté l'organisme. L'OSDH a expliqué que Daesh avait profité du fait que les regards du monde entier étaient tournés vers les séismes dévastateurs qui ont récemment frappé la Turquie et la Syrie pour tuer les victimes. Les terroristes daéchistes se sont emparés de la région désertique de l'est de la Syrie pour s'en faire un refuge après les lourdes pertes qu'ils ont subies en 2018. Ils attaquent et enlèvent régulièrement des civils et des soldats dans la région. Le cabinet d'extrême droite du régime sioniste a décidé de légaliser 9 avant-postes de colons en Cisjordanie occupés, au mépris des protestations de la communauté internationale et des Palestiniens qui veulent mettre fin au projet de colonisation d'Israël. L'autorisation rétroactive des avant-postes marque la première mesure de ce type à être prise par le nouveau cabinet israélien qui a pris le pouvoir fin décembre avec une combinaison de partis d'extrême droite et ultra-orthodoxes. Le premier ministre israélien a décrit l'expansion des colonies du régime comme la priorité absolue de son cabinet afin d'obtenir les votes des partis extrémistes. La communauté internationale considère les colonies, dont des centaines ont été construites à travers la Cisjordanie depuis l'occupation du territoire par l'entité sioniste en 1967, comme illégales en raison de leur construction sur les territoires occupés. Dimanche également, un communiqué du bureau de Netanyahou a indiqué qu'un comité de planification devait se réunir dans les prochains jours pour approuver de nouvelles unités de colons et la construction en masse de davantage d'unités dans les colonies existantes. Le ministre israélien des Finances du cabinet d'extrême droite, Bezalel Smotrich, a estimé le nombre d'unités à 10 000. Réagissant à la décision du cabinet israélien Nabil Abu Daina, le porte-parole du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a condamné cette décision comme une provocation qui conduirait à de nouvelles tensions, a rapporté l'agence de presse officielle palestinienne, WAFA. Il a également dénoncé les projets du régime d'augmenter de façon vertigineuse le nombre d'unités de colons. Abu Daina a souligné que toutes les mesures unilatérales sont rejetées conformément aux résolutions de la légitimité internationale et aux accords bilatéraux. Des Français ont manifesté ce dimanche 12 février à l'appel du président des Patriotes, Florian Philippot, pour la sortie de leur pays de l'OTAN et contre les livraisons d'armes à l'Ukraine. Macron, ta guerre, on n'en veut pas. Une marche en faveur de la sortie de la France de l'Alliance Atlantique s'est déroulée à Paris, à l'initiative du président des Patriotes, Florian Philippot, qui assure que des milliers de personnes y ont pris part. Les manifestants réclament également la fin des livraisons d'armes occidentales aux autorités ukrainiennes. L'Algérie condamne fermement la récente attaque terroriste contre un détachement de l'armée nigérienne, assurant le Niger de sa solidarité dans la lutte nigérienne contre le terrorisme, a déclaré dimanche le ministère algérien des Affaires étrangères dans un communiqué. L'Algérie condamne fermement l'attaque terroriste menée vendredi contre un détachement de l'armée nigérienne en patrouille dans la localité d'Intagamé, dans le sud-est du Niger, à la frontière avec le Mali, faisant plusieurs morts et blessés parmi les soldats, dont certains sont portés disparus, indique le communiqué. L'Algérie a aussi réitéré son appel à l'éradication du terrorisme, qui impacte négativement la paix, la sécurité et le développement en Afrique, selon la même source. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Donbass, les non-dits de l'attaque chimique des drones ukrainiens. un scientifique, un correspondant de guerre, dans leurs estimations, dans un rapport publié 12 février sur le site Sputnik, sur ce que serait la substance chimique utilisée dans les attaques de drones ukrainiennes dans le Donbass. Selon une version, il s'agit de cyanure d'hydrogène. Dans différents secteurs des combats, principalement sur les axes de Soledar et d'Artyomovsk, des commandants militaires russes signalent l'utilisation d'armes chimiques par les forces ukrainiennes. Une information qui a été confirmée par le chef de la République populaire de Donetsk, Denis Pushilin. Selon lui, des drones sont utilisés pour larguer des armes chimiques. Mais de quelle substance s'agit-il? Alors que Vladimir Kozin, membre correspondant de l'Académie des sciences de Russie, n'a pas de version précise, il pointe auprès de Sputnik les symptômes provoqués par ces agents chimiques, c'est-à-dire des lésions des voies respiratoires et des muqueuses. Le correspondant de guerre de Sputnik, Sergei Shilov, estime pour sa part que c'est du cyanure d'hydrogène, HCN. Comme il s'agit d'un liquide volatile toxique sur les vidéos, il est possible de voir qu'il est conservé au réfrigérateur. De 85% à 90% des cas d'empoisonnement se soldent par la mort. Pendant la Seconde Guerre mondiale, à l'aide du HCN, les Allemands ont fabriqué le poison Zyklon B pour tuer les prisonniers des camps de concentration, dit le journaliste. Quant au recours aux drones par les forces ukrainiennes, Sergei Shilov précise qu'il s'agit d'attaques en intérieur parce qu'ainsi, la concentration de poison mortel augmente dans l'air, puisque l'intoxication devient possible même à travers la peau. Un autre signe indirect de la présence d'une substance toxique dans les munitions est que les drones kamikazes ne sont pas des Mavic ordinaires, drones produits par la Chine, mais des FPV, qui sont extrêmement maniables, capables de voler entre des branches d'arbres. Les recherches sont en cours en République populaire de Donetsk pour la mise en place des moyens supplémentaires de protéger les troupes russes contre les armes chimiques utilisées par les forces ukrainiennes, a déclaré lundi 6 février le chef par intérim de la région, Denis Pushilin. Yan Gagin, conseiller du chef de la République populaire de Donetsk, a déclaré plus tôt que les forces du régime de Kiev avaient utilisé des armes chimiques le long des lignes de front de Soledar et d'Artyomovsk le 5 février. Gagin a souligné que ce n'était pas la première fois que l'Ukraine utilisait des armes chimiques, ajoutant que l'armée ukrainienne n'a pas caché qu'elle était en possession d'armes interdites et a même publié des vidéos montrant des grenades à gaz importées et des drones conçus pour les décharger. Denis Pushilin a déclaré lundi 6 février que des preuves corroborant l'utilisation d'armes chimiques par les forces armées ukrainiennes avaient également été trouvées le long de la ligne de front du Gledar.